toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Après 44 jours d'interdiction, le pop-corn est revenu dans les salles ce mercredi. On ne sait pas s'il faut s'en réjouir ou pas. Toujours est-il que c'est peut-être le début d'un retour à la normale pour les cinémas en France, avec des chiffres qui se redressent un peu. 275 000 entrées pour Les Promesses, dont nous avons reçu le réalisateur Thomas Krutoff il y a peu dans cette émission. Plus de 100 000 en une semaine pour Enquête sur un scandale d'État, dont Thierry de Peretti nous a parlé la semaine dernière, tandis que Super-Héros, malgré lui, dont on n'a pas parlé dans l'émission, on l'avoue, dépasse le million. Sophie, bonjour.
Guten Tag, bonjour.
Vous rentrez de Berlin, de la 72e édition de la Berlinale. On ne parlera pas test PCR, c'est promis, ou en tout cas le minimum, mais plutôt des belles promesses tenues par la compétition et les sections parallèles. Nous parlerons aussi cinéphilie et plateforme avec le cinéaste camerounais Jean-Pierre Bécolo. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, vous êtes en ligne avec nous depuis Yaoundé et ce mois-ci vous troquez votre casquette de cinéaste pour celle de programmateur sur la plateforme française La Cinéthèque. Vous présentez ce mois-ci vos 50 films préférés, on en reparlera. Mais pour commencer, on fait un bond dans le temps avec un film de 1985, un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma. Visage de femme de l'Ivoirien Désiré Ekaré sort en salle mercredi prochain en version restaurée. Pour en parler, deux invités en plateau avec nous. Bonjour Claire Diao.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et critique de cinéma. Et bonjour Gaël Técher.
Bonjour.
Vous êtes distributeur pour La Traverse. Et c'est vous qui êtes à l'origine de cette belle initiative. Comment ça a commencé cette histoire ?
Ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé quand j'ai découvert le film à sa sortie.
Donc en 85
à Cannes. Après en salle, grâce à des parents cinéphiles et comment dire très tolérants parce que je n'avais pas l'âge légal pour voir le film.
Vous n'aviez pas 18 ans.
Ouais, loin s'en faut même. Et voilà, il m'a marqué. Bon, il m'a marqué à la fois comme adolescent pour une scène mythique qui
dont on reparlera,
qui m'a fortement secoué, et puis pour j'étais jeune cinéphile et c'était un choc. En plus, j'avais vécu en Côte d'Ivoire, enfin c'était tout un trajet personnel. Et des années plus tard, il y a je sais plus 3-4 ans je pense, on a repensé avec mon ami Freddy Donaes au film, en se disant, parce qu'on travaille depuis longtemps sur le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma africain, on a été très proche d'Idrissa Ouédraogo et d'autres, et on a repensé au film, on l'a cherché, et il se trouve que c'est le moment où, puisqu'on parlait de la Cinéthèque, ou qu'on va parler de la Cinéthèque avec Jean-Pierre, c'est le moment où Mahamat Haroun Saleh faisait sa liste sur la Cinéthèque, et il y avait Visage de femme dans sa liste, ce qui m'a donné l'occasion de le revoir, de me dire, ouais, ça n'a pas pris une ride, voire c'est encore plus fort 35 ans plus tard. Et puis alors là, bon, il a fallu chercher les fils de Désiré Ekaré, les trouver, puis chercher des éléments négatifs, enfin, ce qu'on pouvait trouver. Puis
pas
voilà.
Facile.
Non, pas facile.
Vous voulez dire les négatifs de la pellicule, hein, c'est ça ?
Ouais, les éléments originaux pour faire la restauration.
Film météorite, film expérience, film aventure et vraisemblablement film culte, Visage de femme est avant tout une grosse surprise. Il ne ressemble à rien de ce qu'on ait déjà pu voir. Ça, c'est le critique de Libé. Olivier Séguré, visiblement très secoué après la projection cannoise du film en 1985. Visage de femme, c'est un film qui raconte les trajectoires de trois femmes, donc dans la Côte d'Ivoire des années 80. À Abidjan, Bernadette est une femme d'affaires de 50 ans qui s'aperçoit que malgré les énormes bénéfices de son entreprise de poissons séchés, eh bien, le banquier ne veut pas lui accorder de prêt pour le restaurant qu'elle veut ouvrir. Fanta, elle, apprend le karaté pour se défendre de son mari violent. Mais avant Fanta et avant Bernadette, il y a Nguesso, la villageoise qui s'éprend du frère de son mari.
Depuis 2 semaines, je ne fais que te regarder à la dérobée. Presser ta main au vol. Tout le monde nous surveille. Tu es étrange.
Mais oui.
Oh. Donne-moi-nous. Fia fia lait. Ouah, flammy.
Ok. Ça sera aucun influence sur nous. Nous sommes des nous. Sans fils même d'un gaboué à fin. Non, la fils.
Voilà, dialogue et scène d'amour magnifique entre donc cette jeune villageoise jouée par Albertine Nguessan et son amant Sidiki Bakaba, hein, pour son premier rôle au cinéma juste avant. Alors ça se passe juste avant la scène qui va tétaniser la censure ivoirienne, puisqu'on dans quelques minutes on va voir le couple faire l'amour dans le lit d'une rivière. Voilà, d'où scandale immense autour du film dont on reparlera bien sûr avec vous Claire et vous Gaëlle, mais on a l'impression qu'on a retenu en fait cet effet de scandale un peu au détriment de tout le reste. Et quand je dis tout le reste, c'est l'immense beauté du film, Claire Diao. Oui. Vous l'avez découvert quand ce film ?
Beaucoup plus récemment que, que mon collègue Gaëlle, puisque moi c'était mon année de naissance, l'année de la sortie. Donc ça aurait été difficile de, peut-être en tant qu'embryon, j'aurais pu le voir avec ma maman, mais non, elle était à Dakar, donc elle n'était pas dans les salles françaises. Je l'ai découvert lors d'un FESPACO, je pense que c'était le 2019, où il a été projeté. Et en fait, j'avais été épatée par le vent de liberté qu'il y avait dans ce film. Et je m'étais même fait la remarque, c'est fou qu'un cinéaste se sente aussi libre en 85 quand des cinéastes des années 2010-2020 me semblaient s'auto-censurer. En fait, la manière que Désiré Carré avait de filmer les femmes, de filmer cet amour, cette liberté, j'avais l'impression de ne pas le reconnaître et ne pas le retrouver aujourd'hui avec des cinéastes qui ont soi-disant la possibilité de faire beaucoup plus de choses, en tout cas techniquement, parce que c'est un long métrage, Visage de femme, qui a pris 10 ans à être fait, qui a coûté vraiment cher aux cinéastes, qui a dû faire des petits boulots pour, enfin en tout cas qui a dû travailler pour financer son film et sa sortie.
Et même ouvrir un restaurant, je crois.
Exactement, à Ouagadougou, le Maki. Mais du coup, c'est un film qui m'a vraiment frappée par sa beauté, son esthétique et tout le discours qu'il a autour des femmes. Et c'est vrai que c'est tellement dommage de le réduire à cette séquence qui est très belle et très impressionnante, mais c'est pas ça qui résume tout le film. On est quand même sur des visages de femmes et des femmes qui luttent pour leur émancipation, qu'elles soient financières ou amoureuses, et que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural.
En quoi il est unique, ce film, Gaëlle Téchère, pour vous ?
En plein de choses. Il est unique d'abord par rapport à ce que dit Claire sur sa liberté, mais qui est au cœur de la démarche des Carrés pour faire le film. C'est-à-dire que Carrés fait 2 premiers films en France, produits par Argos Film, Concerto pour un exil et À nous de France, et qu'à partir de là, il veut faire un film ivoirien. Ce qui veut dire, dans son esprit, sans argent français aussi. Vraiment faire un film de Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Bon, voilà. C'est pour ça que ça prend 10 ans, parce qu'il n'y a pas de financement. Mais que cette liberté qu'il s'accorde, effectivement, en s'asseyant un peu sur les contraintes techniques, enfin voilà, il tourne quand il peut, avec ce qu'il peut, etc. Et cette liberté, elle inonde tout le film. Que je crois que, je ne suis peut-être pas bien placé pour le dire, mais que c'est un très grand film féministe, bien avant tout ce qui peut se faire aujourd'hui ou se dire aujourd'hui.
Alors justement, on en reparlera et tout à l'heure.
Ouais, et que tout à l'heure, vous parliez de Bernadette et de son commerce qui rapporte beaucoup d'argent, mais du banquier qui veut pas allonger. Bernadette, il y a 2 hommes à ses crochets quand même.
Et beaucoup plus, le village aussi voudrait être à ses crochets.
Mais alors, c'est le village du mari.
Et c'est le village du mari. Alors on aura l'occasion d'en parler, parce que ça donne lieu à un monologue absolument extraordinaire. Mais Claire parlait tout à l'heure de la beauté de l'image signée Dominique Gentil et François Mijat. Mais ce qui frappe aussi dans le film, et je pense surtout à la première partie, donc au village, c'est cette attention extraordinaire portée à la vie villageoise. On voit comment les femmes préparent le riz, comment se récolte le café. Et il y a aussi beaucoup de scènes de danse et de chants traditionnels, et entre autres celle-là qu'on a absolument voulu vous faire entendre parce qu'elle est extraordinaire. Alors là, on entend les femmes qui chantent. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elles font une sorte de danse très particulière avec la paume de leurs mains, à l'endroit, à l'envers. Et c'est un des moments merveilleux du film. Il y en aura plusieurs, de ces scènes de chant, de danse. On a l'impression que Désiré et Carré, c'est... Alors peut-être que vous me corrigerez, Claire et Gaëlle, mais qu'il a voulu se faire presque l'ethnologue, garder une archive d'un moment qui forcément va disparaître.
Je sais pas. En fait, pour moi, l'une des forces du film, c'est de... Il y a un regard ethnologique, mais en dessous. Enfin, c'est.
Il y a plutôt la tentation de capturer un moment.
Ouais, il y a aussi. Enfin, c'est un film très drôle. Les scènes de danse et de chant sont des scènes de chœur antique. En fait, elles commentent. Les femmes commentent, elles se moquent
des hommes.
On fait bien de les faire cocu parce qu'ils le méritent bien, etc.
C'est ce qu'elles chantent.
Oui, c'est ce qu'elles chantent, oui. Bien sûr, elles se moquent. C'est à la fois, elles commentent l'action et elles la rendent publique, en gros. Et c'est ça qui est très beau. Il y a une structure extrêmement forte entre cette troupe qui chante et qui danse et les épisodes. Dans un commentaire très ironique... Il y a, je sais plus, je crois que c'est Michel Mardor à l'époque de la sortie du film qui disait on est à la fois chez Renoir pour la sensualité, pour la rivière, pour etc. et chez Pagnol parce qu'effectivement c'est tout le temps drôle, c'est une vraie comédie. Enfin quand elle abat son mari après avoir pris 3 cours de karaté, c'est quand même à mourir de rire, c'est formidable. Et tout le film est comme ça sur une ironie. Quand Carré a voulu faire un film pour les Ivoiriens. Il n'a pas voulu faire un film glorifiant les Ivoiriens. C'est un film extrêmement critique sur une société ivoirienne du milieu des années 80, sur le patriarcat, etc. etc. Mais il le fait avec un humour
Et les femmes sont flamboyantes, en fait. Déjà, elles sont tout le temps en mouvement. Elles subissent jamais, elles sont toujours en action. C'est vraiment les hommes qui, à la rigueur, sont assis ou contemplatifs des autres qui s'agitent. Je pense notamment à Sidiki Bakaba quand il est dans les champs d'igname, un pied sur la terre, en train de fumer sa cigarette et tout le monde le regarde genre « Étoile citadin, est-ce que tu vas pas venir nous aider, rentre à la maison si c'est pour faire ça ?» Et puis elle traitait même de petit blanc parce qu'il est là et il ne participe pas au chant. Mais les femmes, elles sont tout le temps en action, en volonté et elles sont pas du tout en train de subir. Et c'est là que on peut dire que c'est un très grand film féministe. C'est un film certes réalisé par un homme dans les années 80, mais qui n'est pas, enfin voilà, qui est sans aucune complaisance avec les gens les hommes du même sexe
et
que
les
lui.
Les femmes sont très très fortes dans le film. Alors comme vous le disiez, elles sont tout le temps en action et puis surtout elles ont la langue bien pendue.
Tu vois comment elle bat sa femme. Matin, le soir, à midi, il la bat. Tu sais, ma chère, les hommes font leur malin parce qu'ils sont les plus forts. Ils nous dominent à cause de leur force. Il faut donc leur opposer la même force pour qu'ils nous foutent la paix. Il faut donc apprendre à se battre. Se battre. Tu vois, ma fille, elle a le bac à passer. Dès qu'elle a admise, école militaire. Saint-Cyr. Ma chère. Qu'est-ce qu'il y a? Hey. Tu ne sais pas que j'ai des problèmes, que je dois déposer mon dossier pour monter un commerce. Et puis, moi je n'aime pas ça. Hein? Bac, bac, bac. C'est l'argent seulement. L'argent, l'argent, l'argent. Bien, va aller.
Un extrait de Visage de femme de Désiré et Carré. Donc là, on est passé en fait du village à la villa. On est dans une belle banlieue d'Abidjan. La femme qu'on entend, donc, c'est cette fameuse Bernadette, qui est une bonne femme d'affaires, de talent, qui entretient, vous le disiez, Gaëlle, son mari, son neveu et peut-être même tout le village de son mari. C'est un dialogue mère-fille extraordinaire. Et effectivement, c'est d'un féminisme qu'on n'imagine pas du tout pour l'époque.
Alors, son dialogue à elle est comme ça. Ses filles sont d'un autre avis.
Oui, mais ses filles ont pleinement conscience aussi de leur puissance.
De leur puissance sensuelle. Voilà. C'est par là que ça passe dans la jeune génération à ce moment-là pour Carré. Elles disent il faut se maquiller et on aura tout ce qu'on voudra.
Alors, elles ont entre autres une phrase qui va mettre le feu aux poudres, où elles disent qu'elles peuvent faire nommer des ministres grâce à leur puissance sensuelle, sexuelle, leur beauté, etc. Mais bon, en fait, ce qui va dans ce film, en réalité, qui va créer énormément de problèmes et chambouler la vie autant du réalisateur que des deux interprètes, ça va être la scène d'amour extraordinaire dans la rivière dont vous parliez tout à l'heure, Gaëlle Téchère. Est-ce qu'on peut la raconter, cette histoire du film? C'est-à-dire qu'il va être interdit quand même pendant un an, énormément attaqué, y compris par toute la presse italienne,
ivoirienne.
Toute la presse ivoirienne, pardon. Et au bout d'un an, et en fait, Désiré Carré, on lui dit coupe la scène, coupe la scène, coupe la scène. Il refuse, il ne cède en rien. Et il va finir au bout d'un an par avoir l'autorisation de sortir son film et interdit au moins de 18 ans. Mais c'est un film qui va quand même complètement chambouler le cours de sa vie.
En fait, ce qu'il obtient au bout d'un an, c'est cette interdiction au moins de 18 ans que lui demande depuis le début. Et à mon avis, il l'a demandé parce qu'il était malin. Sinon, il aurait montré le film.
Connaissait les limites.
Voilà. Sinon, il aurait pas hésité à montrer le film à des adolescents de 13 ans, par exemple. Et oui, après, il tournera plus, quoi. C'est son dernier film. Il a développé pendant très longtemps un projet qui s'appelait Indépendance Tcha-Tcha. Et qu'il n'a pas pu tourner.
Et qu'il n'a jamais vu le jour. Justement, il en parle dans une interview accordée au journal Le Monde en 89. C'est un projet formidable. C'est les indépendances africaines vues par deux villageois.
Ouais.
Et qu'il n'a jamais vu le jour. Vous, Jean-Pierre Bécolo, je crois que Visage de femme, vous l'avez découvert à sa sortie, c'est ça, en France, en 1988 ?
Oui, à peu près à cette période. Je ne sais pas si c'était la sortie, mais c'était mon arrivée en France. Donc évidemment, on traînait dans les quartiers Saint-Michel et autres pour aller voir les rares films africains qu'on pouvait voir sur les écrans. Et c'est vrai que ce film a tout ce que j'aime en fait. Il y a la transgression, il y a les femmes, et puis il y a le côté pas structuré, pas disons déconstruit, disons, du cinéma. Pour moi, c'est un peu un film que je classerais dans ces films qui cherchaient un langage en fait. C'est-à-dire que c'est le cinéma africain des origines où on cherche un langage, on cherche les histoires et surtout, on ne copie encore personne en fait. Et puis ce que j'aimais aussi dans peut-être l'époque, c'est que les cinéastes étaient des personnages. C'est-à-dire que le cinéaste lui-même est un personnage incroyable. Donc évidemment, ils font des œuvres uniques et ça m'a beaucoup marqué pour quelqu'un qui arrivait sur la scène. J'étais encore étudiant, voilà.
C'est un film qui donnait envie au Jean-Pierre Bécolo de l'époque, étudiant, de faire des films.
Oui, en fait, c'est marrant parce que l'idée, ce n'était pas tellement de faire des films comme ça, mais c'était surtout de savoir qu'il y avait des Africains qui faisaient ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire cette liberté, ce côté décomplexé, et pour moi, ça m'a marqué. Ils n'avaient peur de rien, donc ils nous ont appris à n'avoir peur de rien, cette génération-là en général.
C'est-à-dire d'inventer son écriture, en fait, au fur et à mesure. C'est un peu triste aussi, je trouve, de voir Visage de femme. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes d'accord avec moi, mais de penser que cet homme qui avait tant de talent, qui est mort il y a tout juste 13 ans, en février 2009, finalement, Visage de femme a été son unique long métrage.
Mais il faut quand même préciser qu'il a été sélectionné à Cannes, à la Semaine de la Critique, qu'il a remporté le prix de la critique internationale. Donc il n'est pas passé.
Il n'est pas du tout passé sous les radars. C'est quand même triste de penser qu'un homme qui avait autant de talent n'a fait que deux courts-métrages et un seul long-métrage. Est-ce qu'il y a une grande solitude du cinéaste africain? Jean-Pierre Bécolo, vous avez fait une longue carrière.
Moi, je me dis, j'ai commencé tôt. Mon premier film, c'était à 25 ans, donc peut-être ça a facilité les choses. Mais je dirais aussi qu'il faut accepter son statut. Quand on est pionnier, il faut accepter qu'on est pionnier. Et puis, se dire que les autres vont continuer ce qui a été commencé. Donc, je crois beaucoup de cinéastes sont un peu comme Désiré et Carré. Ils ont proposé ce qu'ils avaient à proposer. Les autres films ne se sont pas faits. Moi, je trouve que ce n'est pas grave. Ils laissent quelque chose de fort, d'unique. Et pour moi, qui peut-être... je ne dis pas que les autres films n'allaient pas avoir la même dimension, mais... En termes d'innovation, de recherche, et pour l'époque, comme disait Claire Diaou, c'est quand même quelque chose de remarquable, une bonne leçon pour les jeunes générations.
Jean-Pierre Bécolo, la Cinéthèque, on le disait tout à l'heure, elle vous a demandé de programmer vos 50 films préférés. Alors, je ne vais pas les citer tous, hein, mais bon, il y a Balle Poussière, d'Henri Duparc, on reste en Côte d'Ivoire, Touki Bouki de Djibril Diop Mambéty, Hélène de Souleymane Cissé, Yaba d'Idrissa Ouedraogo, et puis aussi Black Micmac, Boys in the Hood, Benny's Video, l'un des premiers films de Michael Haneke. Et vous m'avez confié, quand on s'est parlé pour préparer cette émission, que finalement, les programmateurs de la Cinéthèque connaissaient assez peu ces films, ce corpus de films.
Oui, ça m'a surpris parce que, évidemment, moi, je suis un peu plus. Ma cinéphilie, c'est les années 90 parce qu'évidemment, je me construisais comme cinéaste et je découvrais un peu que finalement, il n'y a pas beaucoup de mémoire hein, dans le cinéma. C'est vraiment ce qui est sorti en dernier qui reste finalement. Donc, j'étais assez étonné parce que des films comme Miller's Crossing des frères Cohen, par exemple, nous a marqué parce qu'on voyait des gangsters parler d'éthique. C'est-à-dire qu'on peut tuer quelqu'un, c'est pas grave, mais on ne peut pas tricher au jeu. Bon. Donc, toutes ces choses qui, pour moi, étaient pour moi marquées à jamais, disons, mon idée du cinéma, j'étais assez surpris que tous ces films-là, beaucoup, surtout africains, d'ailleurs, vous en avez cité certains, n'étaient pas du tout dans leur viseur.
Les cinéastes africains, on leur parle rarement de leur cinéphilie, c'est-à-dire ou alors on leur demande leur rapport avec des grandes figures comme Souleymane Cissé ou Samben Ousmane.
Oui.
Mais vous, c'est quelque chose qui vous a manqué un peu, justement ces conversations qui sont précieuses hein, sur la cinéphilie, quels sont les films qui ont donné envie de faire du cinéma, qui ont donné la force de faire du cinéma, les films qu'on a vus très jeunes et où on s'est dit « Ah bah tiens, peut-être que moi aussi, je pourrais raconter une histoire comme ça. »
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, cinéastes africains, on parle de nous. Nous, on ne parle pas vraiment. On parle de nous, on parle de nos films. Et j'ai beaucoup apprécié cette démarche de la Cinéthèque de dire « Alors, dites-nous quels sont les films qui vous ont marqué et partagez-les pour qu'on puisse les mettre sur la plateforme. » Et moi, par exemple, donc, je dirais sans, par exemple, « Do the Writing » de Spike Lee, je ne pense pas que j'aurais été le cinéaste que je suis. C'est-à-dire que c'est un film qui m'a donné la liberté. C'est-à-dire que c'est très intimidant. Vous venez d'Afrique et moi, je fréquentais la FEMIS et tous ces lieux de cinéma et on voit tous ces gens-là, on regarde les films. Mais faire le lien entre son vécu, son désir de cinéma et ces films-là, c'est toujours assez intimidant, disons. Et moi, donc, en regardant Do the Right Thing, que je trouve d'ailleurs intéressant parce que c'est un film, je ne sais pas si on peut dire communiste ou marxiste, dans le sens où c'est la communauté le personnage principal, ce qui est vraiment contre l'individualisme américain, c'est-à-dire que où c'est l'individu qui change le monde. Par contre, Spike Lee va et prend le groupe, ce qui qu'on retrouve d'ailleurs dans le quartier Mozart, l'idée que tout le quartier est le personnage principal. Donc l'idée de la communauté qui devient le personnage, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais surtout dans le style. C'est-à-dire que quand bien même il a quand même de bons moyens pour faire son film, Do the Writing, il s'autorise des petits clins d'œil, des petits éléments de langage et de discours qui pour moi, en fait, me faisaient sentir que je peux faire ce que je veux. Donc c'est vrai que moi, je me suis forgé avec les films. C'est-à-dire que c'est peut-être par élimination. On aime ça, on n'aime pas ça. On est d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Et il faut avoir vu beaucoup de films pour se construire. Donc, moi, c'était un peu en réaction à ce que les autres faisaient que finalement, je définissais ce que moi, j'avais envie de faire.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Bécolo. Donc, pendant tout ce mois de février et même au-delà, on peut voir votre cinémathèque préférée sur la plateforme La Cinéthèque. À bientôt.
Merci.
Et bonne journée à vous. Claire Diao, Gaël Descher, merci à vous. Restez avec nous pour le journal du cinéma consacré à cette 72e Berlinale. Et avant, Clara Luciani.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le fil. Sur ton piano, une mélodie expire dans un écho. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je te le laisse.
Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde pour parler du Festival de Berlin dont vous revenez, Sophie, après l'édition numérique de l'an dernier. Est-ce que c'était un retour à la normale ?
Pas encore tout à fait. Déjà, la Berlinale a été raccourcie de plusieurs jours pour limiter les risques. Et puis, il fallait vraiment montrer patte blanche pour entrer dans les salles, non seulement avoir eu ses 3 doses de vaccin, prouver son identité, il vérifiait vraiment, porter un masque FFP2, c'est le masque le plus protecteur, et apporter tous les jours la preuve d'un test négatif, ça c'est pour la presse. Et pour ce faire, il y avait des bus qui faisaient office de centre de test Covid, disponibles à proximité du Berlinale Palast. Mais bon, en pleine vague Omicron, Carlo Chatrian, le directeur artistique, le reconnaît, il n'avait pas vraiment le choix.
Pour nous, ça a été un grand défi de mener à bout cette édition, pas vraiment d'un point de vue de la sélection, donc de mon côté, mais plutôt du point de vue organisationnel, parce que, comme vous savez, l'Europe entière et l'Allemagne aussi a été touchée par une forte vague. Là, au moment où on en parle, les infections sont encore très hautes en Allemagne. Mais en même temps, il y a un sentiment qu'il faut... il faut faire avec, au sens où il faut essayer de vivre avec la pandémie en se protégeant. Bien sûr, on fait cet entretien avec des masques, donc ma voix est un peu masquée. Mais en même temps, essayant de ne pas perdre complètement ce qui rend la culture importante, c'est qu'elle n'est pas seulement faite d'objets ou de... Maintenant, même les films ne sont plus des objets, sont des choses virtuelles. Mais elle est faite aussi des rencontres. Quand on dit que le cinéma est un art, c'est parce qu'elle produit des œuvres d'art qui existent dans un vide, mais aussi parce qu'elle, et surtout parce qu'elle amène des gens ensemble à partager des émotions. En ce sens, je trouve que le cinéma, c'est très différent par rapport à la peinture. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Bon, la pièce de théâtre existe, on peut la lire, mais quand on est en théâtre, on est avec d'autres gens. Ce sera difficile d'imaginer être à théâtre tout seul. Et donc, je pense que le festival représente un peu cela. Donc, c'était un effort, et c'est un effort d'avancer, parce qu'on demande au public, un effort supplémentaire, et on sait que des risques sont présents. Mais en même temps, les gouvernements partout en Europe, ils nous encouragent. Ils disent que c'est des efforts qu'il faut faire. Il faut commencer à se retrouver.
Ouais, c'est un effort d'avancer, dit Carlo Chatrian. Mais du coup, Sophie, ça devait être un peu étrange, non, comme ambiance?
Oui, alors c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. Voilà les impressions du cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis, qui avait remporté à Berlin l'Ours d'argent en 2017 pour Félicité, et qui revenait cette année présenter un documentaire sur le pianiste de jazz Thelonious Monk.
C'est un endroit que j'aime bien. Alors là, j'arrive juste, je le découvre un peu dépeuplé, c'est un peu bizarre. Parce que d'habitude, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est un endroit que j'aime bien. Pour la diversité de cinéma qu'il y a, ils explorent plein de choses différentes. Et vraiment, c'est un endroit où moi, j'ai vécu beaucoup de choses aussi. Parce qu'en plus, Berlin, ça permet, donc pour moi aussi, ça permet de faire Berlin et Fespaco quand le Fespaco est la même année, alors que Cannes ne permet pas. Donc voilà, pour mes deux derniers films, j'ai pu faire et Berlin et le Fespaco derrière, et c'était une très belle combinaison, si on peut dire.
Voilà, pour l'ambiance un peu étrange de cette 72e édition.
Qui s'est achevée mercredi. 18 films étaient en lice pour l'Ours d'Or, décerné à...
Alcaraz.
Eh bien, Alcaraz, hein, de la réalisatrice espagnole Carla Simón. Après Cannes et Venise, Berlin sacre à son tour une femme, et une jeune femme, 35 ans. Elle a Carla Simón, qui dresse dans son film le portrait d'une famille de métayers. On est en Catalogne. Le père veut coûte que coûte préserver son verger de pêcher, alors que le propriétaire de la terre lui impose d'implanter des panneaux solaires. Donc c'est aussi la description de la fin d'un monde, hein, d'une transformation. Les femmes décidément à l'honneur à Berlin, puisque la Française Claire Denis décroche l'Ours d'argent pour Avec amour et acharnement, le portrait d'une femme, Juliette Binoche, déchirée entre deux hommes, hein, Vincent Lindon et Grégoire Collin. Le prix de la meilleure interprétation, qui est désormais non genrée, échoit là aussi à une femme, une actrice, la comique allemande d'origine turque Meltem Kaptan. Incroyable dans le film d'Andreas Dresen, Rabier Kournaz versus George Bush, l'histoire vraie d'une mère qui s'est battue pendant plusieurs années pour faire sortir son fils de Guantanamo. Voilà.
Et pour le reste, Sophie, vous avez fait de belles découvertes.
Oui, alors notamment de films africains venus de pays pour l'instant très peu, voire pas représentés au cinéma. La Centrafrique, le Soudan du Sud notamment. Alors certes, il n'y avait pas cette année un film africain en lice pour l'Ours d'Or, mais plusieurs tout de même dans les sections parallèles. J'ai pu rencontrer le jeune réalisateur centrafricain de Nous étudiants, alors que c'est un film hybride. C'est un documentaire, mais qui comporte aussi des scènes rejouées par les personnages filmés, qui sont en fait les amis, hein, du cinéaste Rafiki Faryala. Et c'est un film produit par Boris Lochkine, qui avait repéré Rafiki lors du projet Ciné Bangui, hein, donc d'enseignement du cinéma à Bangui en Centrafrique. Je vous propose d'écouter Rafiki Faryala.
C'est l'histoire de quatre amis étudiants depuis la première année à l'université de Bangui en sciences économiques et de gestion. Ça raconte c'est quoi être un étudiant à l'université de Bangui, quels sont nos rêves, quelles sont nos difficultés, quelles sont nos peines, quoi. Par exemple, les filles qui sont harcelées par certains professeurs qui sont généralement absents, les étudiants qui dorment sur les bancs pour les attendre, les étudiants qui composent en classe et à la délibération, les notes disparaissent, les garçons qui ne peuvent pas s'approcher des belles filles parce que les filles appartiennent aux professeurs de l'université, et les profs qui disent les garçons, vous les étudiants, allez chercher vos copines au lycée. Donc c'est notre réalité, c'est notre quotidien malgré tout ça, malgré que on n'a qu'une seule université où il n'y a presque pas de table banc, on n'a pas les professeurs aussi qui ne sont pas aussi bien payés, c'est pour ça qu'ils préfèrent aller enseigner dans les universités privées. Donc c'est l'ensemble de tout ça, malgré tout on se bat pour étudier, pour qu'un jour notre pays puisse se développer. C'est dans cette condition que j'essaie de raconter notre quotidien à l'université.
On voit aussi des salles de cours bondées. Vous avez tourné vraiment votre réalité.
Oui, effectivement, j'ai tourné vraiment notre réalité à l'université de Bangui, par exemple, dans certaines facultés. Vous allez vous rendre compte que si tu n'arrives pas à l'heure, si tu n'arrives pas avant vers 3h du matin ou au plus tard 5h du matin, tu ne peux pas avoir la première place parce qu'on n'a pas assez de classes, on n'a pas assez de places et on n'a pas assez de tables bancs. Du coup, on s'assoit comme des sardines et c'est plus facile que les gens puissent tricher aussi. Et ça donne le résultat que quand on rend le copie, vous voyez dans le film, il y a des courses par-ci par-là et les notes disparaissent facilement, et ce qui engendre aussi la corruption parce que ces professeurs acceptent que ça arrive comme ça, et après quand tu n'as pas de résultats, il faut aller les voir au secrétariat, déposer quelque chose pour voir gérer la situation. Et si tu n'as pas de parents qui sont bien placés, c'est fini, tu arrêtes les études vite fait comme ça. Et c'est l'université vraiment des pauvres, je peux dire, c'est l'université de nous qui n'avons pas assez d'argent. Ceux qui ont plus d'argent vont à l'étranger ou soit dans des universités privées. Et nous n'avons pas de bourse dans cette université. Les enfants du ministre, les enfants des présidents n'étudient pas dans cette université. C'est ce qu'on dit même dans notre film.
Nous, en tant que Centrafricains, si on a cette volonté, s'il y a un bon leadership, s'il y a une acceptation du développement ou de la croissance, notre pays, d'ici 30 ans, sera aussi un pays émergent bien d'ici 20 ans. Est-ce qu'on se comprend ? C'est la volonté.
Rafiki Faryalla, du coup, c'est un documentaire, mais en même temps, je l'ai un peu dit, mais il y a des séquences de fiction.
Oui, c'est un film documentaire. Mon style à moi, ce que j'aime, laisser la liberté aux acteurs, aux personnages, à mes amis qui sont dans le film, de jouer comme ils veulent. On raconte notre quotidien, mais au-delà de cela, il y a des scènes qu'on n'a pas pu les capter dans la réalité. Du coup, j'ai remis quelques scènes de fiction. Par exemple, les scènes du commissariat où on voit le personnage qui se fait arrêter.
Est-ce que c'est Aaron ou Benjamin ?
Aaron,
c'est ça. Qui est accusé de détournement de mineur, d'avoir violé une jeune fille de 15 ans, mais qui est sa petite amie.
Oui, c'est son amie. Donc, c'est des scènes qu'on ne pouvait pas avoir et que j'ai refait, j'ai mis en scène. Mais en gardant vraiment juste la réalité, ce qui se passe concrètement, parce qu'on ne leur dicte pas ce qu'ils doivent faire, on leur explique juste l'idée et on laisse les choses se faire et ça donne le résultat assez naturel.
Mais ça leur est vraiment arrivé, ils ont rejoué la scène ou c'est arrivé à d'autres, par exemple d'autres amis et vous leur avez demandé à eux de tourner ces séquences-là?
Tout ce que vous voyez dans le film, c'est vraiment la réalité de ce qui est arrivé à mes personnages. Aaron, ce qu'on nous dit au commissariat, c'est vraiment ce qui s'est passé. Nestor, ce qu'il fait au marché, c'est réellement ce qui s'est passé avec Nestor. Et ça arrive, c'est vraiment une autre histoire. C'est ce qui se passe presque tous les jours dans la ville de Bangui au marché, où les jeunes qui vendent se font arrêter par les policiers parce qu'ils doivent payer. Des fois, c'est injuste. Voilà. Tout est une réalité, au fait.
On sent que là, vraiment, quand on est un jeune étudiant, enfin, c'est un combat.
Oui, effectivement, c'est un combat. C'est pour que d'ici demain, notre pays soit aussi représenté positivement. Vous savez, la RC est un pays qui a été touché vraiment par une crise militaro-politique. Du coup, nous, jeunes, nous ne devons pas dormir. Le film n'est pas un film politique. Ce n'est pas un film qui dénonce. C'est notre histoire qu'on raconte, même si on dit des choses réelles que nous subissons. Mais c'est vraiment que d'ici demain, les choses puissent avancer. C'est notre rêve. C'est comme on dit dans le film, ce n'est pas les vieux qui vont changer ce pays. C'est nous, les jeunes, qui devons le changer. Donc on doit vraiment faire confiance à la jeunesse aussi, on doit avoir notre place, on doit nous écouter aussi, on doit prendre la parole dans les choses comme on le fait dans le film pour que nous essayons aussi de donner notre contribution pour que ce pays puisse avancer.
Vous avez eu comme ça facilement, vous avez tourné facilement, vous avez dû demander des autorisations, Rafiki Faryalla?
Déjà, il y a très très longtemps, en RCA, il n'y avait qu'un seul grand film qu'on en parlait, Le silence de la forêt. Et après, il y a eu la crise, tout, il n'y avait rien du cinéma. Donc c'est en 2017 qu'on a commencé à apprendre le cinéma avec nos formateurs Boris Lodge-King, Daniel Incalcatera, avec les ateliers Varan. Donc vous voyez, du coup, c'était la renaissance du cinéma. C'est nous qui avons ressuscité encore le cinéma. Mais au-delà de cela, les gens n'étaient pas encore très habitués avec la caméra. Quand tu sors la caméra, les gens t'insultent. Pourquoi tu nous filmes? Soit s'ils ne t'insultent pas, s'ils ne t'écrivent pas dessus, soit ils veulent se faire filmer. Ils viennent se mettre devant la caméra pour s'amuser parce qu'ils voient, c'est nouveau. Ça n'a pas été facile. Et dans les administrations, pour avoir les autorisations, c'était très, très compliqué. Par exemple, même pour tourner à l'université, pour nous, dans mon pays, on dit que c'est impossible. Tu peux pas filmer dans l'université. Déjà, rencontrer le recteur n'est pas facile pour avoir son autorisation. Il est plus qu'un ministre. Il aurait fallu 4 mois pour juste obtenir l'autorisation de tournage. Mais c'est bien, on a pu finir. C'est pas facile. Quand tu veux tourner, tu peux avoir un policier qui peut te sauter dessus pour te dire pourquoi tu filmes ici, tu dois pas filmer, où est l'autorisation de tournage. Soit tu filmes malgré l'autorisation de tournage de ses responsables. Il peut même te compliquer la vie. Il faut filer des billets par-ci, par-là là pour avancer, mais ça fait partie de nous et on aime quand même notre pays et on espère que ça va changer.
Rafiki Faryalla qui parle de son premier film, un documentaire Nous étudiants. En fait, Sophie, il y avait pas mal de docs à Berlin cette année, entre autres un doc que vous avez beaucoup aimé, du Soudan du Sud.
Un doc du Soudan du Sud, c'est étonnant, hein. Le Soudan du Sud, c'est quand même l'un des plus jeunes, enfin même le plus jeune État du monde. Hein. Il a proclamé son indépendance en 2011. C'est le 54e pays d'Afrique. Et il est signé par la fille du premier vice-président du Soudan du Sud. Donc c'est Akwal de Mabior, qui est une jeune femme, qui s'interroge sur ce que veut dire appartenir à un pays quand, comme elle, on a vécu en exil la majeure partie de sa vie. Hein, sachant qu'elle est née à Cuba et qu'elle a grandi au Kenya. Donc c'est très étonnant, ce film-là. Et puis j'ai vu, et beaucoup apprécié, un documentaire nigérian intitulé No U-turn, sans retour.
My name is Ike Nebue. I'm a filmmaker and a cultural entrepreneur from Lagos, Nigeria. I'm about to embark on a journey to retrace my coming of age, to reflect on my own youth. I will meet West African youth migrating today and try to understand their challenges and hopes, as well as the choices they make. The story I tell will be like a switch of timelines. It seems like a lifetime ago.
Un documentaire d'ailleurs qui a obtenu une mention spéciale au palmarès du Festival de Berlin. Alors comme Simple Way Home, donc le film du Sud-Soudan, No U-turn, c'est un documentaire sélectionné par une organisation non gouvernementale sud-africaine qui s'appelle STEPS, qui est à l'origine du projet Génération Africa. L'enjeu, c'est raconter plus d'histoires authentiques du continent et donner une image moins misérabiliste de l'Afrique. No U-turn, c'est un road movie documentaire. À 47 ans, le réalisateur Ike Nebue, qui s'est fait un nom à Hollywood, a décidé de tourner un documentaire et de refaire le voyage qu'il avait entrepris 27 ans plus tôt, donc à 20 ans. Il rêvait d'Europe à l'époque et il s'était arrêté au Mali par peur des dangers encourus. Et je lui ai demandé comment il avait eu l'idée de retourner donc sur ses pas, de faire toute cette route, hein, donc en partant de Lagos au Nigeria, en passant par le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie. Enfin, l'objectif étant d'arriver au Maroc. Donc, comment Ike Nebue avait eu l'idée de retourner sur ses pas 26 ans après?
Because the experience was quite impactful.
C'est une expérience très marquante. Ça a commencé comme une aventure excitante et ça s'est transformé en traumatisme. J'ai été dévasté quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer.
Là, c'était au Mali, c'est ça, que vous êtes arrêté?
Yes, it was in Mali. It was in Bamako.
Oui, c'était au Mali, à Bamako. Puis j'ai atterri en Gambie. C'est là que j'ai fait mes débuts comme acteur à la télévision.
Realized that this is what I want to do with my life, and I think I was 21 then, and at the end of the day I decided that I was going to go back to Nigeria after 2 years.
J'avais 21 ans et je me suis dit que c'était ce que je voulais faire de ma vie. Après 2 ans en Gambie, j'ai décidé de retourner au Nigeria afin d'étudier la réalisation, car le Nigeria c'est un marché plus important.
You know, one of those type of experiences that you just want to share with as much people as possible, you know. So, now I'm a filmmaker, so...
Moi, c'est resté une expérience que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre. Maintenant que je suis réalisateur, je dois raconter cette histoire. J'ai toujours su que je le ferais. Donc, dès que j'en ai eu l'occasion, grâce à Génération Africa, je savais que le moment était venu.
Mais en 26 ans, l'immigration s'est vraiment, j'ai l'impression, accentuée. Il y a de plus en plus de jeunes Africains qui tentent, hein, par la route, l'exil, hein, vers l'Eldorado européen. Mais à l'époque, quand vous aviez 20 ans, on ne parlait pas d'esclavage en Libye. Il y avait déjà des dangers?
Well, it was quite dangerous that when I was 20, when I made the journey the first time.
Eh bien, c'était assez dangereux quand j'avais 20 ans. L'une des différences majeures, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, les nouvelles circulent super vite. Donc à l'époque, la plupart des candidats à l'exil ne savaient pas ce qui les attendait. Mais c'était déjà là. Les gens se faisaient voler, violer, kidnapper, même 26 ans auparavant. Peut-être que la situation en Libye a empiré après la chute de Kadhafi. Donc oui, c'est devenu plus dangereux. Ce qui suscite encore plus mon intérêt. Car les dangers ne dissuadent pas les gens de prendre la route. Il y en a même de plus en plus. Je voulais comprendre ce qui fait naître l'espoir qui transcende la peur du danger. C'est compliqué à comprendre.
difficult for me to understand because, I mean, 26 years ago, I just heard about the danger from somebody. And I changed my mind.
Moi, il y a 26 ans, quelqu'un m'a dit que c'était dangereux et j'ai changé d'avis. À présent que l'on parle des dangers tous les jours, il y a quand même les jeunes qui partent.
So, but going on the road, I quickly realized that it's more about a mental journey. You know, it's like this is not really about Europe, the physical place.
Sur la route, je me suis rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'un voyage existentiel. Ce n'est pas tant l'Europe, l'espace physique qui les attire. Oui, ils veulent aller en Europe. Mais admettons que sur la route, ils trouvent quelque chose qui les attire au Sénégal. Ils y resteront. Donc ce n'est pas tant l'Europe qu'un voyage mental. Et nous tous, partout dans le monde, nous sommes embarqués dans un voyage. Déménager d'un endroit à un autre, se marier, etc. C'est ce que je montre.
And so for them, if it was Europe, yeah, okay, let's go to Europe. But it's really not about Europe. And that's what I found.
Mais alors du coup, vous aussi, Ike Nabwe, vous avez tenté l'aventure, parce que c'est un road movie, en fait, votre documentaire. Hein. Vous prenez des mini-cars, des bus, c'est vraiment une traversée de l'Afrique de l'Ouest par la route. Comment ça s'est passé? C'était pas dangereux? Vous étiez en équipe réduite, juste avec votre caméra? Comment ça s'est fait?
So it was actually a very difficult film to make, you know, physically draining, mentally challenging.
C'était un film difficile à faire, épuisant physiquement et stimulant intellectuellement. Mais c'était bien d'avoir fait le trajet 26 ans plus tôt, car ce n'était pas nouveau pour moi. J'avais aussi fait des repérages de Lagos à Ouagadougou. J'étais avec mon directeur de photographie, mon producteur et mon ingénieur du son. On était en équipe réduite. Mais ils pouvaient aussi être terrifiés par moments. Alors bien sûr, je ne savais pas à quoi m'attendre au Maroc, parce que je n'étais pas allé jusque-là. C'était d'autant plus difficile que nous avons tourné pendant la pandémie. Et puis on s'est fait arrêter en Mauritanie, en détention pendant 2 jours. C'est un pays visiblement très délicat. Aucun diplomate ne voulait s'embrouiller avec eux. On s'est débrouillé tout seul.
Which ticket is available? Dakar? Let's go. Like anywhere but here. And I remember that when we came back, my producer sort of had like a mental, like, meltdown, you know, sort of. And so that's like
on a acheté les premiers billets disponibles via Dakar. Mon producteur a fait une crise de nerfs. C'était donc dangereux, mais en même temps drôle et excitant. Même si on sait que cela peut tourner au vinaigre. J'ai aussi sympathisé avec les personnages rencontrés sur la route. C'était vraiment intéressant et stimulant.
It's like, you know, we established a certain level of relationship that was quite comforting, and yeah, it was really interesting and challenging at the same time.
Le réalisateur Ike Nabwe à Berlin, au micro de Sophie Torlotin. Et c'est là que se termine notre émission. Merci à nos 3 invités. Jean-Pierre Bécolo, qui est ce mois-ci l'invité d'honneur de la Cinéthèque, donc une plateforme qui programme ses 50 films préférés, de Djibril Diop-Mambéty à Christopher Nolan. Merci Claire Diao.
Merci.
Et merci Gaël Técher.
Merci.
D'être venu nous parler de Visage de femme, donc un film extraordinaire de Désirée Icaré en salle mercredi prochain. En version restaurée.
Oui. À voir absolument.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Notre invité sera Emmanuel Gras, qui a suivi pendant plusieurs semaines le mouvement des Gilets jaunes à Chartres. Son film s'appelle Un peuple. Mmh.